Il est 8h.
Même si rien ne remplace les véritables rencontres physiques, je pense qu'on peut quand même maintenir une relation de confiance avec nos collègues, y compris en télétravail.
Ils ne sont toujours pas revenus dans leur bureau. Des milliers de salariés en télétravail à 100%, comme en plein confinement. Enquête Europe 1 sur ces entreprises où l'exception, c'est de venir travailler. Va-t-on vers des délocalisations pour absence de 5G? Alors que certains élus locaux disent leur réticence à l'arrivée de cette technologie, des entreprises les prient de ne pas prendre de retard. Dans ce journal, l'Europe chargée à bloc pour contrer la prédominance des batteries chinoises. Marine Le Pen et biscotte un poney. La présidente du RN veut faire entendre sa voix sur le bien-être animal. Et puis vous prendrez de quoi noter pour la fin du journal avec une recette, celle du champion de France du burger, comté, riz de veau et sauce gribiche, entre autres ingrédients.
Bridgestone et les menaces qui pèsent sur l'économie et l'emploi ces prochains mois, mais aussi les enjeux d'un télétravail organisé en entreprise aussi. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pour eux, le monde d'après tient tout entier dans leur maison. Ils y vivent et y travaillent. Depuis la mi-mars, des milliers de salariés sont à 100% à distance de leur entreprise. Le télétravail qui fait l'objet d'une ultime réunion entre les syndicats de salariés et de patrons aujourd'hui en vue d'un éventuel cadre commun.
Bonjour Olivier Samin.
Bonjour.
Beaucoup d'entreprises n'ont pas attendu et négocient des accords en interne pour instaurer le télétravail 2 ou 3 jours par semaine. Mais encore aujourd'hui, certaines en revanche n'ont fait revenir aucun de leurs salariés au bureau.
Ben oui, ADP par exemple, rien à voir avec Aéroport de Paris, c'est une société de services qui édite 3 millions de bulletins de paye chaque mois en France. Dans l'entreprise, personne n'a remis les pieds au bureau depuis 6 mois. Les 2300 salariés pratiquent le télétravail à 100% et ça restera la règle plusieurs mois encore s'il le faut, jusqu'à ce que la menace Covid s'atténue. Pas de problème, dit Charlie.
Ma vie de salarié n'a pas été tant perturbée que cela, et même si rien ne remplace les véritables rencontres physiques, je pense qu'on peut quand même maintenir une relation de confiance avec nos collègues, y compris en télétravail.
Alors le télétravail au maximum, c'est une solution qui ne convient pas à tout le monde, Olivier. Il y a aussi des sociétés où on est autorisé à revenir, mais alors de façon très limitée.
Oui, chez Microsoft France, par exemple, le télétravail à 100% reste la règle. Les volontaires, pour revenir au bureau, il y en a quand même, doivent s'inscrire à l'avance. Et la jauge est limitée à 150 sur un effectif de 1800 personnes. Même système au siège parisien de Monster, le site d'offre d'emploi. Depuis la semaine dernière, les volontaires peuvent revenir. 5 seulement l'ont fait sur un total de 50 salariés. Et à l'antenne de Marseille, personne n'est revenu et ne reviendra jamais au bureau. Ben oui, dit la responsable RH, Anaïs Tonin, le choix a été de passer au télétravail intégral et définitif.
Nous avons décidé de fermer nos locaux, de proposer à tous nos salariés de rester en télétravail à leur domicile de manière permanente. Pour cela, ils ont tous signé un avenant télétravail à 100%.
Alors ça ne veut pas dire que les 18 salariés de Monster à Marseille ne se verront plus jamais. Une fois par semaine, le jeudi, ils se détourneront de leurs écrans et se retrouveront dans un espace de coworking loué à la journée.
Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
La 5G, on parle beaucoup des gens qui en ont peur, mais on ne parle pas assez des gens qui l'attendent. Voilà ce que disait le PDG d'Orange, Stéphane Richard, hier au micro d'Europe 1. Alors, les gens qui en ont peur, ce sont certains élus qui demandent des précisions sur le volet sanitaire ou environnemental. Et ceux qui l'attendent, cette 5G, ce sont de nombreuses entreprises basées sur le numérique.
D'où ce débat extrêmement sensible à Rennes, où la maire socialiste Nathalie Appéré affiche sa vigilance sur l'arrivée de cette technologie. François Coulon.
La maire de Rennes refuse la précipitation et veut imposer 6 mois d'études d'impact et de débats citoyens avant de tester la 5G sur son territoire. Nathalie Appéré.
Le droit des citoyens d'être éclairés sans être des amis pour sortir par le haut d'un débat qui s'hystérise parfois. Posons tous les arguments sur la table.
Le coup de frein de la maire secoue le cœur de métier de Rennes, le numérique qui fait vivre 4500 entreprises et 38 000 salariés. Jocelyn Denis, fondateur de Digitaléo.
À la posture de certains élus écologistes de Rennes, qui était d'interdire, on a trouvé ça choquant parce que imaginons qu'on se projette à 5 ans, 10 ans, pas de 5G à Rennes, ou en tout cas pas reconnu comme étant le berceau de ces nouveaux réseaux. Ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'on n'existe plus en fait. Par une décision politique, finalement, on peut prendre beaucoup de retard. C'est comme si rien s'interdisait de vendre du champagne. Des grands donneurs d'ordre pourraient demain réfléchir à peut-être créer des labos ailleurs ou dans d'autres pays, là où la technologie sera bien vue, tout simplement. C'est vraiment une compétition mondiale aujourd'hui et donc on ne peut pas se permettre juste à un niveau local de dire stop.
La maire de Rennes n'exclut pas de peser sur les autorisations d'urbanisme requises par le déploiement de la 5G. Rennes, François Coulon, Europe 1.
Autre brique technologique de l'avenir, le stockage de l'électricité pour les avions, les logements et bien sûr les voitures. Le patron de Tesla, Elon Musk, lance aujourd'hui une journée de la batterie avec des annonces passionnantes, promet-il. En Europe, on en est encore au balbutiement de l'Airbus de la batterie, ce consortium franco-allemand, mais il y a des progrès.
Et le retard commence à être rattrapé sur la Chine. La preuve, c'est vous qui nous l'a donné ce matin, Aurélien Fleureau, bonjour.
Bonjour.
Les dépôts de brevets se sont accélérés depuis plusieurs années maintenant.
Oui, c'est le secteur où la concurrence est la plus rude. Le nombre de brevets déposés augmente de 14% tous les ans depuis 2005. C'est 4 fois plus que dans tous les autres domaines technologiques réunis, selon l'étude publiée ce matin par l'Office européen des brevets. Et la France y joue de plus en plus un rôle porteur, un rôle moteur, porté par les recherches du CEA Paris-Saclay, qui s'est hissé dans le top 15 mondial. Alors, ces nouveaux projets doivent permettre aux constructeurs français de cette fois être dans la course. C'est le cas de Renault, mais aussi de PSA, où Nicolas Leclerc, responsable du pôle innovation pour l'électrification, travaille sur la prochaine génération de batteries.
On explore les différentes technologies pour cette nouvelle génération à 5-10 ans. La première des contraintes, c'est la densité d'énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on va pouvoir installer dans la voiture, parce que c'est ce qui détermine l'autonomie de la voiture. Un deuxième point très important, on cherche des technologies qui sont capables de se charger très vite. Donc c'est pour ça qu'on travaille des technologies qui sont capables de se recharger à haute puissance.
Alors, autonomie, vitesse de charge, mais aussi recyclage des cellules, stockage de l'électricité pour en faire une énergie durable, sans oublier la préservation des métaux rares avec des projets de batteries sans nickel ni cobalt.
Merci Aurélien Fleureau. On vous parlait hier de l'enjeu crucial du remplacement à la Cour suprême des États-Unis de la juge Bader Ginsburg. Le président Donald Trump promet qu'il nommera une candidate dès la fin de la semaine. Les États-Unis qui comptent près de 200 000 morts du coronavirus, 1 millier de plus chaque jour en ce moment, c'est proportionnellement 4 fois plus qu'en Europe.
8h07 sur Europe 1. Ce n'est pas la première fois qu'on entend Marine Le Pen sur la thématique du bien-être animal.
La présidente du Rassemblement National était hier dans Lyon, dans un refuge où les animaux, ainsi d'ailleurs que le propriétaire des lieux, ont été agressés le mois dernier. Claudia Bertram était pour Europe 1 avec Marine Le Pen.
Voilà, c'est toute belle.
Dans l'enclos, Marine Le Pen caresse Biscotte. Le poney a une longue cicatrice sur le flanc. Aux côtés du propriétaire, lui-même blessé au bras, la présidente du RN veut exprimer sa compassion envers ceux qui font face à cette vague de mutilations.
Je sais l'angoisse qui les étreint, je sais la souffrance qui est la leur, ainsi que celle évidemment de leurs bêtes qui sont mutilées. Je sais aussi que les pouvoirs publics font le nécessaire pour tenter de mettre fin à cette épouvante, hein, qui frappe, qui heurte, qui choque.
Marine Le Pen fait le tour du ranch, s'attendrit devant les animaux. Elle n'est pas là pour parler de son thème fétiche, la sécurité, mais bien de protection animale. Et elle veut même rassembler autour de ce thème.
C'est vraiment un des sujets qui pourrait permettre, au-delà de toutes les étiquettes partisanes, de se mettre autour d'une table pour en discuter. Le RN a toujours été prêt à travailler avec d'autres mouvements.
Une discussion qu'elle veut engager avec tout le monde, vétérinaires, associations, agriculteurs et chasseurs. En mettant l'accent sur le sujet très consensuel de la protection animale, Marine Le Pen espère relancer sa rentrée en demi-teinte. Villefranche-Saint-Phal, Claudia Bertram, Europe 1.
Vous restez avec nous dans un instant, le retour du soupçon sur le Tour de France. Perquisition et garde à vue autour d'une équipe française.
Et puis s'il est encore temps de changer le menu de votre petit déjeuner, attendez 2 minutes pour une recette, même si ce sera du salé.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
C'était le Tour de France de la résilience. 3 semaines de grande boucle dans un quasi huis clos avec des coureurs protégés par une bulle sanitaire. Mais hier, une enquête a été ouverte pour des soupçons de dopage. Elle vise la formation française Arkea Samsic, de quoi jeter de nouveau le trouble sur une compétition à l'image si abîmée ces dernières années. Axel May.
La direction d'Arkea Samsic assure tomber des nues, n'être au courant de rien. Le parquet de Marseille précise, lui, que seule une petite partie de l'équipe est concernée. Habituée de la grande boucle ces dernières années, la formation bretonne avait doublé son budget cette saison pour recruter Nairo Quintana. Le Colombien, star dans son pays, visait le podium sur le Tour. Longtemps en embuscade au classement général, il s'est effondré dans les Alpes pour finir 17e à Paris. Antoine Vaillé, ancien entraîneur de la formation Festina en 98, contribue au blog ChronoWatt dans lequel il dénonce inlassablement le dopage.
Quintana, oui, il a eu des ratés qui sont complètement inexplicables. Bernal a eu des ratés qui sont complètement inexplicables. Là, on va parler de chutes, de choses comme ça, mais c'est des gens qui ne sont pas fiables au niveau des performances en faisant des trucs beaucoup trop hauts et puis de temps en temps beaucoup trop bas, eh bien, on a des vrais doutes.
L'affaire qui débute seulement jette en tout cas un peu plus le trouble sur une grande boucle où les performances de certains coureurs, y compris le vainqueur, ont laissé plus d'un observateur dubitatif.
Deux champions à présent dans ce journal. Novak Djokovic qui remporte le Masters 1000 de tennis à Rome, de bon augure pour lui à une semaine de Roland-Garros. Et puis un vainqueur culinaire.
Oui, si je vous dis pain, steak et cheddar, vous penserez a priori hamburger, mais vous serez assez loin de la recette du champion de France de la discipline, car oui, il y a un champion de France et il s'appelle Samuel Bénard.
Le burger s'appelle le bœuf qui rit. Kiri RIS pour le riz de veau. C'est un burger avec un bun au levain de seigle et du malt d'orge en croûte de Vieux-Comté. Des riz de veau panés, puis frits à la plancha. Autrement, un steak de bœuf. Du sel de champignons traditionnel. Tranche de Vieux-Comté affinée 30 mois. Un mesclin de salade. Et puis surtout, la sauce gribiche qui vient relever tout ça. Une sauce assez vinaigrée, moutardée. Les capres, les cornichons, voilà quoi. Bah, c'était vraiment un pari dès la présentation de la recette. Alors c'est quand même assez technique, c'est vrai. Que c'est un burger, je pense, de cuisinier. Et je pense que ça aussi fait partie des raisons pour laquelle ça a payé aujourd'hui.
Voilà, réaction unanime en studio, c'est léger, donc on n'oubliera pas de rajouter quelques frites. C'était Samuel Bénard au micro de Pierre Arbulot pour Europe 1.
Et vous avez ainsi les secrets du petit déjeuner de François Geffrier. Merci François, c'était le journal de 8h. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.